Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, bonjour.
Allô, Guillaume.
Alors, Marie, parlons des médecins de famille, alors les omnipraticiens, qui font plus de paperasse que de santé, semble-t-il. Et là, Monsieur Dubé, lui, voudrait mettre ça dans sa liste des priorités. Là, j'ai l'impression que là, j'ai mis Monsieur Dubé comme ministre, mais j'aurais pu dire ça de plein de ministres avant lui. D'abord, parle-nous du phénomène de la paperasse. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, là, les médecins?
Ouais, je sais pas si Christian Dubé veut mettre ça dans ses priorités, mais chose certaine, il doit mettre ça dans ses priorités. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Là. C'est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, Dr. Amiot, qui a fait quelques sorties dans les derniers mois en disant finalement que c'est énorme. Là. C'est 20 à 25 du temps des médecins de famille qui est consacré à remplir de la paperasse. Donc, au lieu de voir des patients, c'est le quart de leur temps où ils sont en train de remplir toutes sortes de formulaires du genre par exemple, pour avoir accès à des assurances et des affaires qui sont quand même assez surréalistes. Un peu, par exemple, si tu veux aller voir un psychologue et que ce soit pris en charge par tes assurances, ben, il y a certaines assurances qui vont demander que tu aies une ordonnance du médecin. Donc, il y a toutes sortes de formulaires comme ça parce que les assurances demandent d'avoir une référence d'un médecin de famille pour pouvoir aller voir un autre spécialiste, que ce soit un physio ou un masso, peu importe. Puis, donc tu sais, ils sont embourbés dans de la paperasse. Puis, j'entendais le docteur Amiot, c'est quand même fou, là. Il disait qu'il y a 9 000 médecins de famille au Québec. S'ils réduisaient juste de 2 heures par semaine le temps qu'ils consacrent à toute cette bureaucratie-là, tous ces papiers qui sont pas toujours utiles, ils récupéraient 18 000 heures de services, 18 000 heures que les médecins de famille pourraient consacrer à voir des patients. C'est complètement effarant, là, le temps qui est perdu.
Oui, il y a un bout, là. Permets-moi, Marie, d'être un peu avocat du diable là-dessus. Là. Il y a un bout où est-ce que c'est vrai, là, mais le transfert direct de s'ils sauvaient 2 heures en paperasserie, ils seraient transférés exactement 2 heures en service. Je suis pas sûr, moi, si ce serait pas transféré 2 heures de temps libre. Le pacte avec le diable chez les médecins, c'est un peu la rémunération à l'acte. Et là, je vais me faire plaisir, je vais te poser la question, Marie. Est-ce que, voici le deal qu'on pourrait faire, là. Dans tes ministres de la Santé, imagine ça. Dire, OK, on va vous soutenir pour la paperasse, on va vous libérer, mais votre incorporation, on va vous la faire sauter. Vous n'êtes pas des travailleurs autonomes, c'est une fabulation de l'esprit, vous êtes des employés de l'État, puis vous allez arrêter de pouvoir déduire sans cesse énormément de coûts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avancer comme négociation avec les médecins?
Ben, si tu veux partir une révolution avec les médecins de famille puis une guerre ouverte, c'est probablement une bonne approche, mais c'est surtout que je pense pas qu'en bout de ligne, on serait gagnant ni comme population, ni comme ministre, parce que, tu sais, les deux heures en question, non, ça se transformera pas en temps libre, parce que justement, tu dis bien, un médecin, pour être payé, il doit facturer, il doit être en train de faire quelque chose. Donc, s'il est pas en train de remplir un formulaire, il va être en train de voir un patient parce qu'il veut être capable de faire un bilan complet, puis là, dans sa facturation, il va dire, ça coûte tant, tu sais. Donc, je regardais le fédéral, justement, le gouvernement fédéral, eux, ont changé dernièrement leur façon de fonctionner. Ils n'exigent plus de preuves pour leurs fonctionnaires pour avoir accès justement à certains professionnels, comme je disais, que ce soit de la physio, des psychologues et autres. Le gouvernement du Québec doit s'impliquer aussi pour ça parce que la FMOQ là, est en train de faire ces démarches-là auprès d'assureurs, elle essaie de les convaincre. Mais tu sais, si Christian Dubé, à l'heure actuelle, là, il doit être en mode solution, ça, c'est une des solutions. Tu sais, je regardais les derniers chiffres, tu as 1,2 million de patients au Québec qui sont orphelins, qui n'ont pas de médecin de famille. Tu en as plus de 800 000 qui sont en attente sur ce qu'on appelle les fameux guichets d'accès à un médecin de famille. Et dans le contexte d'un vieillissement de la population, moi j'en ai eu plein là, comme député, des gens qui nous appelaient en panique, malheureux, parce que, par exemple, leur médecin de famille avait pris sa retraite. Puis du jour au lendemain, c'est des centaines de patients vulnérables, dans certains cas, qui se retrouvaient sans médecin de famille.
Oui, moi, ça nous est arrivé, nous, notre famille, on avait un super médecin médecin de famille. Elle a quitté la pratique. Puis là, ben, c'est organisez-vous avec vos troubles. Ça, c'est un peu un drame. Mais tu mets le doigt sur quelque chose parce que le gouvernement, c'est deux choses. Hein. C'est un législateur qui organise beaucoup de services, mais c'est aussi un des plus gros employeurs. Donc, sa force comme gestionnaire, elle est gigantesque. Et le gouvernement du Québec, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que Christian Dubé devrait prendre une marche jusqu'au bureau de Mme Sonia Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor, qui est un peu l'employeur en chef, et dire « faites-nous sauter certaines obligations pour nos assurances collectives ». Et ça, ça pourrait alléger de l'autre côté du pipeline les exigences aux médecins, là.
Ben, entre autres, puis avec toutes les grandes compagnies d'assurance, je pense que quand tu vois la tu sais, je pense que dans sa démarche, Christian Dubé doit se demander l'énergie qu'il met, elle lui fait gagner quoi à la fin, tu sais. Puis ça, c'est une démarche qui, tu sais, d'entreprendre des négociations ou de sensibiliser, tu sais, main dans la main avec la FMOQ, les différents partenaires, puis les assureurs, puis de leur dire, écoutez, est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, d'enlever tel formulaire ou la même chose, les formulaires qui ont été mis, là, ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une aberration, là. Pour aller consulter un médecin spécialiste, t'es obligé d'aller voir un médecin de famille. Donc, si tu veux aller voir, par exemple, un dermatologue pour, parce que ta fille, ton gars, tu sais, je veux dire, a besoin de voir un dermatologue, t'es obligé d'aller voir un médecin de famille pour qu'il te fasse un formulaire pour consulter un médecin spécialiste. C'est tout du temps qui est mal utilisé par des médecins de famille.
Le pipeline à l'entrée. Moi, mais j'en démarre pas. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir la faire sauter, cette fameuse incorporation. On va se garder ça pour une prochaine bataille, t'as raison. Là, il y a... je pense à cette vieille chanson, je pense que c'est Patsy Cline, là. J'ai un amour qui veut pas mourir. C'est ceux qui sont amoureux de la réforme du scrutin qui, dans leur tête, va révolutionner pour le mieux la démocratie québécoise. Ils se préparent à faire une super manif à l'Assemblée nationale.
Oui, ben là, c'est ça. C'est une coalition qui tente de relancer encore le débat sur le fameux mode de scrutin. On en a parlé beaucoup au lendemain de la dernière élection, au lendemain du 3 octobre, justement, parce que c'est un peu farfelu, les résultats. Ben, pas farfelu, mais ça soulève des questions d'avoir des groupes, entre autres, d'opposition qui ont des résultats similaires en termes de pourcentage de vote, mais qui se retrouvent de 21 députés à aucun député du tout dans le cas, par exemple, du Parti conservateur avec M. Duhaime, alors que finalement, le PLQ, la CAQ, QS et le Parti conservateur sont allés chercher un nombre de votes quand même assez similaire, très, très similaire même, je dirais. Et là, il y a une coalition qui veut relancer ce débat-là, qui vont aller manifester, comme tu dis, devant l'Assemblée nationale mardi, en pleine rentrée parlementaire. Tu sais, la grande question, c'est est-ce qu'une réforme est encore possible, dans le fond? Puis François Legault, là-dessus, a été quand même assez clair. Lui, il se lancera pas là-dedans. C'est comme plein de partis, il était d'accord avant de se faire élire. Il était d'accord quand il était dans la deuxième opposition. Puis la journée où il a formé le gouvernement, il s'est bien empressé de dire « Ouais, je remets ça aux oubliettes, finalement, je balaye ça en dessous du tapis, on passe à un autre appel. »
Ça, c'est le côté scandaleux de la chose parce que à la limite, les bons gouvernements doivent renoncer à leurs mauvaises promesses. Moi, je pense que c'est quelque chose de périlleux pour le Québec, parce qu'on ne devrait pas analyser un système démocratique sur la base du résultat d'une élection. Il faut le voir sur une tendance vaste et longue, au moins sur une ou deux générations. Et en passant, le score de la CAQ à cette élection-ci est exactement le même que celui du gouvernement Lévesque en 76. Mais plus que ça, ce qui me fascine en disant, mais là, François Legault a abandonné sa promesse, ouais, mais il est quand même allé devant l'électorat et a été élu. Ceci était très connu, là. Alors, s'il faut s'en remettre au jugement populaire, le jugement populaire est très clair. Les gens ont voulu avoir un gouvernement qui ne ferait pas de ça une priorité. Je regrette un peu, Marie, que François Legault ait dit que ça intéresse juste une gang d'intellectuels. De tous les arguments contre la réforme, celui-là était sans doute le plus mauvais, le plus dénué de sens de l'État. Mais je me pose la question... Est-ce que ça va avoir des jambes après? Est-ce que tu vois arriver, par exemple, une union des partis d'opposition pour déposer motion après motion, pour garder la chose vivante pendant encore un autre mandat, là?
Non, je pense pas, parce que, tu sais, oui, c'est malheureux les propos qu'a tenus François Legault quand il a dit que ça intéressait seulement une poignée d'intellectuels au Québec, alors que, bon, il y a plusieurs sondages qui montrent que les gens sont sont intéressés par le dossier. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'ils réfléchissent pas à ça en mangeant leur céréales puis leur toast le matin. Là. Donc, en tout cas, moi, si j'étais encore dans un parti d'opposition, ça ferait pas partie de mes grandes priorités à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des enjeux hautement plus importants à l'heure actuelle sur nos services publics, sur les palais de justice qui débordent, le réseau de la santé qui craque, l'éducation, les écoles où on n'a pas de profs. C'est quoi? C'est pas les enjeux qui manquent. Puis là, tu ajoutes toute la question de l'inflation à ça, les organismes communautaires qui sont mis à la rue, les gens qui n'arrivent pas à manger. Mais une fois qu'on a tout dit ça, je pense que le débat sur le mode de scrutin, il faut qu'ils sortent des mains des politiciens. Il faut pas qu'ils soient liés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un calcul qui est fait, moi j'ai participé à ce genre de discussion-là, tu sais, tout le monde regarde, ouais, ok, mais au lendemain de ce changement ou de la mise en place de tel mode de scrutin, est-ce que moi je suis encore là comme élu? Est-ce que moi, comme formation politique, ça vient m'avantager ou ça vient me désavantager? Donc, tu peux pas demander à ces gens-là d'être juge et parti. Tu sais, il faut sortir ça du politique, sortir ça des partis politiques, mettre ça peut-être dans les mains du DGEQ, tu sais, du directeur général des élections du Québec, que lui entame une réflexion là-dessus. Ouais. Comme là, il va se lancer d'ailleurs dans la réforme, si tu veux, mais il doit revoir la carte électorale. Hein? Donc, il se lance dans ce processus-là. Peut-être qu'il y a une discussion qui devrait être faite en même temps sur le mode de scrutin.
Ouais, Marie, peut-être que là, ça va nous prendre une bonne vieille technique que les philosophes et sociologues connaissent, le voile de l'ignorance de John Rawls. Arrêter de réfléchir à un système de scrutin sur la base de « est-ce que ça fait gagner mon parti ?» ou pas, mais plutôt quel genre de société on veut. Ça, ce serait peut-être intéressant. Marie, mon petit, merci beaucoup. On se reparle demain. Au plaisir.
À demain, Guillaume.